Ce n'est pas une question simple de travailler sur la position sociale des agriculteurs, puisque le groupe est particulièrement hétérogène et qu'il se présente publiquement, socialement, médiatiquement, souvent comme un groupe homogène, avec des institutions propres, la MSA, le Crédit Agricole, les syndicats spécifiques, avec une construction politique du groupe toujours réaffirmée, et puis même le mot agriculteur fait sens dans le langage commun. Longtemps eu un monopole syndical, mais un fractionnement syndical aujourd'hui qui fait quand même qu'il y a plusieurs colorations politiques à la profession, mais globalement il y a quand même l'idée des agriculteurs comme un groupe social jusqu'à la catégorie socioprofessionnelle des agriculteurs et jusqu'à la production de données spécifiques, le recensement agricole, l'ORECA. Donc on a un ensemble d'éléments qui peuvent donner l'illusion d'un groupe social. Et c'est jusqu'où ce groupe social tient. En même temps, argumenter cette idée d'une difficulté à objectiver le groupe social ou l'existence d'un groupe social agricole, il y a aussi, bien sûr, la réduction très importante des effectifs des agriculteurs. Aujourd'hui, c'est 2% des emplois en France, 6% dans les zones rurales. C'est pas grand-chose comparé aux 32% des ouvriers dans les zones rurales. D'une certaine manière, avec l'appareil statistique national dont on dispose, les grandes enquêtes, avec 2% d'emplois en France agricole, les agriculteurs deviennent progressivement invisibles dans un ensemble d'enquêtes. Puisque les effectifs deviennent trop réduits pour les étudier de manière plus fine que le groupe PCS agricole. Et donc on produit, d'une certaine manière, nous, les scientifiques, avec les outils qu'on a, contribue à construire le groupe agricole en ne pouvant pas différencier ce groupe qui est pourtant à différencier. En plus, comme ce sont des indépendants, il y a tout un problème de domestication de l'administration fiscale des indépendants et des agriculteurs. Toutes les données de revenus qu'on peut avoir sur les agriculteurs sont souvent à prendre avec d'énormes pincettes. Je pense notamment aux travaux de Céline Bessière sur les divorces dans les exploitations où les épouses refont les calculs. On voit que les revenus déclarés sont bien loin des revenus réels des exploitants. S'ajoute donc au-delà de ces problèmes de construction politique d'un groupe, limite statistique, je pense que les sciences sociales ont aussi beaucoup de mal à penser les agriculteurs. Alors je ne reviens pas sur l'histoire du mot paysan qui reste présent, les sociétés paysannes telles que la sociologie rurale autour de Mandras a pu constituer ou construire en partie le groupe. Le vocabulaire classique de la sociologie a eu mis du temps d'une certaine manière à se développer sur les zones rurales avec une tonalité plutôt anthropologique, la proximité des sociologues du rural avec l'anthropologie, les notions de communauté, de villages, de notables. Il y avait un ensemble de vocabulaire plus ou moins ad hoc. D'une certaine manière, un retard à la compréhension des agriculteurs ou des paysans comme une véritable classe sociale. Faut-il la prendre comme une classe sociale, avec les travaux de Marcel Jolivet qui verrait plutôt deux classes sociales, les travaux de Pierre Bourdieu qui parlerait d'une classe sociale, d'une classe objet. Pour le coup, alors Bourdieu, il réinclut complètement les agriculteurs dans la structure sociale nationale. C'est plus du communauté plus ou moins à distance, séparée des organisations nationales. Mais le problème de la classe objet, c'est que c'est une partie de l'agriculture, puisque c'est le plus bas des classes populaires deviennent les paysans, mais il y a d'autres types d'agriculture en France. Le mot de Claude Grignon en disant que les agriculteurs restent un groupe inclassable, je pense, vaut encore d'une certaine manière. Il faudrait dire soit c'est un groupe inclassable, ou soit est-ce que c'est réellement un groupe social, puisque c'est des, on pourrait les classer comme des bourgeois du côté de la propriété, du côté de propriétaires de leurs propres moyens d'exploitation, mais en même temps c'est des bourgeois qui s'exploitent eux-mêmes et qui exploitent leur famille, puis c'est des ouvriers agricoles autant que des ouvriers agricoles pas au sens premier, mais au sens leurs tâches sont autant manuelles que col blanc. Donc la difficulté pour l'outil classique du sociologue a bien identifié comment on pourrait appréhender le groupe agricole. Il me semble que les historiens s'en sortent mieux que nous, avec des travaux qui montrent bien l'éclatement, même dans le temps long, du groupe agricole, avec les travaux sur les fermiers, par exemple, ou les travaux de Maurice Aymard, de Gérard Béor sur une partie plutôt haute, des franges hautes, les travaux de Maillot sur les petites exploitations. On a, il me semble, une moins grande prescription à essayer de trouver le groupe que on tentait de le faire les sociologues. Donc je pense qu'il y a une difficulté dans la sociologie à penser le groupe ou à le penser en tant que groupe. Il se redouble de ces donc difficultés statistiques, de ces difficultés on va dire conceptuelles ou historiques dans l'histoire des sciences sociales à travailler le groupe. L'éclatement très important aujourd'hui d'un petit groupe, puisque en termes de PCS, une petite PCS, qui est un éclatement d'abord, qui les variables de l'éclatement se recoupent entre elles, mais géographique, c'est sûr que les céréaliers de la Beauce n'ont pas grand-chose à voir avec les bergers du Cantal ou les grandes fortunes du champagne, de la production viticole dans l'industrie de... dans l'industrie ou dans l'artisanat ou dans le luxe viticole, n'ont sans doute pas grand-chose à voir non plus avec les petits maraîchers. Donc il y a ce fractionnement géographique recoupe généralement un fractionnement en termes d'orientation technique, de filière agricole. Et on peut dire que les agriculteurs sont sur le territoire de manière... Enfin, s'étalent et se disposent sur le territoire de manière très différenciée. Donc là, la géographie sociale a vraiment plein de choses à dire. Il me semble que les agriculteurs de Champagne sont plus différents des agriculteurs d'Ardèche que le cadre marseillais du cadre parisien. Donc la catégorie, en tout cas statistique, des PCS, telle qu'elle a été constituée... Et donc c'est Alain Desrosières, en 82, quand il refait la nomenclature, il dit bien que ce sont les agriculteurs qui imposent la PCS des agriculteurs, alors qu'à un moment, ils pensent l'abandonner et la mettre dans les artisans et les commerçants. Par exemple, en Angleterre, c'est déjà le cas. Il y a des pays qui ont abandonné des entrées aussi fortes que celles qui restaient en France sur les PCS. Il y a d'autres modes de fractionnement aujourd'hui du groupe, et c'est là que je pense que c'est aussi très intéressant, les historiens aussi savent très très bien que l'agriculture est depuis longtemps connectée à des marchés nationaux et internationaux. C'est pas simplement de la petite polyculture de subsistance ou d'autoconsommation. Il y a donc des marchés de longue distance qui... Et donc il y a des opportunités économiques de long terme. Mais aujourd'hui, c'est toujours aussi vrai, au sens où il y a des marchés porteurs, des marchés non porteurs. Donc il y a des agriculteurs qui prennent des opportunités, d'autres non. Alors avec les circuits courts versus l'agriculture ou le bio versus le productivisme, ceux qui sont encore dans le queue du mouvement productiviste, on va dire... Il y a différentes façons, selon son capital culturel, à se saisir d'opportunités de marché et qui va encore fractionner le groupe les évolutions très contemporaines entre ceux qui en tirent des profits et ceux qui sont dans des processus de paupérisation avancée. Donc il y a à la fois des extrêmes formes de pauvreté dans les mondes agricoles et d'une véritable bourgeoisie agricole. Essayer de réfléchir sur... Si on continue à essayer de fractionner le groupe, on ne sait pas non plus dans quel espace on doit le placer. Je pense que c'est une question importante. Ça vient d'une des premières sensations que j'avais eues, moi, sur mon terrain, sur les céréaliers. J'avais sympathisé avec un agriculteur, et ce qui m'avait vraiment surpris, c'est que je l'avais vu une fois à Paris. Et autant quand je le voyais dans son Châtillonnais, il me paraissait un gros agriculteur très à l'aise et vu comme un favorisé de la fortune, à Paris, il était complètement, pas complètement, j'exagère, enfin, il me semblait comme affaibli socialement. Et c'est cette idée qu'on peut être bourgeois dans sa sous-préfecture et plus qu'à Paris, et que donc l'espace social de catégorisation relationnelle des classes sociales est mobile et la structure sociale, elle n'est pas peut-être aussi nationale que l'outil statistique qui est constitué, qui est l'outil classique de catégorisation des groupes sociaux, n'est peut-être pas toujours le plus pertinent. D'où l'idée que il y a peut-être des espaces sociaux localisés qui s'emboîtent dans des espaces sociaux plus larges, et qu'il ne faut pas peut-être aussi rapidement nier le fait qu'on puisse avoir des comportements de distinction sociale qui ne sont pas payants partout de la même manière dans tous les espaces. Et il me semble que travailler sur les groupes agricoles pose clairement cette question de la géographie sociale, des espaces sociaux dans lesquels ils s'inscrivent. Et donc travailler sur le groupe agricole, c'est au moins l'inscrire dans trois autres groupes. C'est entre eux, au sein des groupes agricoles, comment se positionnent les rapports de force au sein du monde agricole, entre des sous-fractions agricoles. Ça se pose bien sûr au sein de l'espace social national ou de la structure sociale nationale, selon le vocabulaire qu'on veut employer. Et ça se pose donc, à mon sens aussi, dans l'espace social localisé, dans lesquels s'inscrivent les agriculteurs qui, bon, pour l'essentiel, sont des espaces ruraux, puisqu'il y a des agriculteurs en ville, mais il y en a quand même majoritairement dans les espaces ruraux, et que ces espaces ruraux sont en eux-mêmes singuliers du point de vue de leur morphologie sociale. Avec une générale, c'est là que je vais venir rapidement là-dessus, alors vous allez voir le côté sommaire de la géographie, parce que là c'est juste une logique par canton. Et donc pour essayer très rapidement, en fin d'introduction, on va dire, du propos, présenter dans quel type d'espaces sociaux les agriculteurs s'inscrivent. Donc c'est un espace où on voit un très fort déclin des agriculteurs, donc que la répartition spatiale des groupes sociaux, elle est tout sauf homogène sur le territoire. Et que donc les agriculteurs font face, au moins dans leur espace de résidence, on pourrait dire, un espace social décalé vers le bas, avec moins de capital économique, et vers la gauche, avec moins de capitaux culturels. Donc c'est un espace social décalé. Je vais faire un focus plutôt en première partie sur la structure sociale nationale. Et donc, je ne détaille pas toutes les difficultés statistiques qu'il y a derrière. Donc, il faut prendre avec pincette à chaque fois les données statistiques qu'on a sur les agriculteurs selon de multiples critères. Mais bon, et donc là, si on prend simplement les données qu'on a par le revenu disponible de l'INSEE, alors il faut que je prolonge la courbe et je pense qu'elle leur redéclinerait en partie. Mais ce qui est quand même frappant, s'il y a une catégorie sociale qui semble avoir une mobilité ascendante, si on prend la logique du revenu comme un des indicateurs, c'est bien les agriculteurs dans la période, sur la longue période, mais surtout depuis 2003 ou 2004, je ne sais plus, où on voit donc un mouvement qui est quand même assez significatif de hausse dans la structure sociale par rapport aux autres groupes sociaux qui, aujourd'hui, en moyenne, dans l'ensemble des agriculteurs, enfin aujourd'hui en 2008, parce qu'à mon avis, ça c'est pas tout à fait la même chose un peu plus tard, serait au-dessus des professions intermédiaires. Mais la grande difficulté sur les agriculteurs, c'est que non seulement il y a le revenu agricole, mais il y a bien sûr de multiples autres revenus dans le ménage. Selon les zones, selon les spécialisations techniques, ça varie, mais globalement, le revenu agricole compose 50-60% du revenu des ménages des agriculteurs. Et donc dans ces autres revenus, alors il y a multiples... Ça peut être du patrimoine immobilier, ça peut être des activités. Tu parlais des chambres d'hôtes tout à l'heure. Ça peut être. Il y a un ensemble d'activités qui viennent gonfler les revenus. Et donc, le revenu agricole dans la part du revenu des ménages agricoles ne cesse décroître dans les 20, 30 dernières années. Enfin, je ne sais plus exactement à quel moment ça commence, mais la part du revenu agricole dans les ménages agricoles décline. Autre mode de fractionnement, comme je vous le disais en introduction, si on prend maintenant donc forte disparité géographique selon le territoire et forte disparité selon l'orientation technique des agriculteurs. Dernier élément, autant sur le revenu, on a des données certes non fiables, qui sont uniquement sur le revenu agricole et donc qui ne prennent pas l'ensemble des revenus des ménages, qui permettent d'avoir une géographie. Autant sur le patrimoine, c'est une sainte horreur, parce que l'enquête patrimoine, c'est magnifique, il y a 30 000 ménages, mais si vous voulez localiser 30 000 ménages français sur la France, ça ne donne rien. Donc on ne peut pas avoir une approche localisée du patrimoine. Mais par contre, Donc ça, c'est les données 2010. Là, on se rend bien compte que les agriculteurs exploitants font à l'évidence partie des catégories à fort patrimoine en France. Et si on prend les agriculteurs des grandes exploitations, avec une médiane de leur patrimoine à 779 000 euros, la moyenne à 972 000 euros, on est assez proche des gros indépendants, voire des professions libérales, même au-dessus des professions libérales pour la médiane. Pour donc cette présentation à l'échelle nationale de réinscription du capital économique mesuré par le revenu et par le patrimoine. On peut dire, avec ces quelques premières données, qu'on a une répartition géographique très inégale, mais qu'on a un groupe social agricole qui a un revenu globalement en progression, qu'on a une très forte disparité selon les filières et que les céréales et la viticulture sont aujourd'hui à peu près au niveau des cadres en termes de revenus. Et par contre, en termes de patrimoine, ils sont largement au-dessus, puisque là, on a les données pour les grandes exploitations qui, donc, derrière, regroupent généralement, notamment, les céréaliers. Donc, je vous ai dit, une des difficultés de travailler sur le groupe agricole, c'est donc son éclatement géographique. Et donc, moi, ce dont je me suis aussi attaché à faire, c'était de rentrer dans une description du groupe agricole dans un espace social localisé, c'est-à-dire à la fois comprendre leur position dans la morphologie sociale de leur espace de résidence, qui est l'espace où ils se construisent relationnellement leur position sociale, et qui n'est pas le seul espace, que l'espace national existe, ils connaissent, mais leur espace de quotidien de confrontation sociale et sur certaines scènes sociales, notamment la scène politique locale, c'est un des premiers terrains de formation de leur perception des catégories sociales. Donc c'est pas nécessairement la catégorie sociale objectiviste nationale, c'est aussi une perception de soi dans les classements sociaux, qui est intéressant quand on travaille un espace plus restreint, ethnographique, relationnel entre les groupes sociaux. Et pour faire le lien, c'est pas très loin des idées d'interconnaissance dans la sociologie rurale de Mandras, forgées au départ par Marcel Maget comme concept. Et donc dans mon terrain, moi ce qui m'a frappé, c'est que justement une géographe, alors je ne sais pas si elle a eu un très fort postérité, mais qui s'appelait, donc c'est dans les annales de géographie, il y a eu un travail en 1928 sur le Châtillonnais. Et quand on lit cet article, on a l'impression que l'agriculture ne peut absolument pas rien produire dans cet espace. Donc là, je vous ai mis cette citation de cet article dans les annales de géographie. Donc ce pays n'a pas de vocation agricole. Il est de tout le Châtillonnais comme dans ce village de Planet, dont les habitants écrivent en 1793 qu'il n'y a ni vigne, ni pré, ni eau, qui est le plus ingrat pays de la République. Et aujourd'hui, c'est une terre céréalière où, vous allez voir, les agriculteurs ne sont pas si à plaindre que ça, comparativement, en tout cas, à leurs confrères agricoles et aux autres groupes sociaux qui co-résident avec eux dans cet espace. Et donc, ce qui m'a intéressé, c'est d'essayer de travailler cette mobilité sociale collective du groupe agricole que j'ai pu étudier, donc qui était pour moi aussi très intéressant, parce que le Châtillonnais, il y a eu plusieurs enquêtes très importantes en anthropologie et en sociologie. La recherche coopérative sur le programme du Châtillonnais de 65 à 68, puis après les travaux de Minot. Et donc, on a pu récupérer toutes ces archives. Donc, on a une masse de données sur énormément de familles agricoles. Et donc, on peut suivre, on a les entretiens faits par les parents, les grands-parents, et aujourd'hui sur ceux qui sont en place. Bon, il y en a plein d'autres qui sont partis. Mais donc, l'intérêt de l'archivage des enquêtes ethnographiques, c'est pas simplement une histoire des sciences sociales, c'est aussi stocker des données de personnes ordinaires qu'on peut après remobiliser pour des enquêtes, ou pour faire de l'histoire de ces zones rurales, parce qu'un chercheur collecte beaucoup plus de données qu'il n'exploite dans son travail. Donc moi, j'invite largement les historiens à aller embêter leurs collègues sociologues pour qu'ils déposent leurs archives, puisque dans leurs données, dans 20, 30 ou 40 ans, il y a plein de choses à écrire que eux-mêmes n'ont pas compris, n'ont pas vu, parce que le questionnement scientifique se déplace, parce que le regard d'un chercheur est nécessairement limité à ses préoccupations d'un temps. Donc il me semble que dans la revisite ethnographique et la réutilisation des données d'enquête, on a accès à des paroles. Quand tout à l'heure, on disait, on parlait des inventaires. Ouais, c'est un peu aride. Il y a 3-4 indications de biens existants. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est des paroles de personnes ordinaires qui développent énormément. On a leur représentation. On a plein de choses avec ces archives ethnographiques. Donc là, avoir des enquêtes d'anthropologues des années 60 et dont on peut regarder les archives, c'est extrêmement précieux. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce terrain collectif dans cette zone-là. Et donc on peut retracer des histoires de famille sur très très longue période, puisqu'en plus c'était des anthropologues de la parenté qui avaient donc particulièrement travaillé cette question des généalogies. La question de cette mobilité sociale collective du groupe, sans avoir une problématique particulièrement, étoffée, on peut prendre la logique de la mobilité sociale sur le processus d'accumulation de capitaux économiques et aussi, bien sûr, de capitaux culturels. Donc c'est ce tableau-là que je vais essayer de vous préciser sur mes agriculteurs du céréalier du Châtillonnais, essayant de les repositionner dans la structure sociale évolutive de la période. Et donc, au 19e siècle, la structure sociale du Châtillonnais, elle est très, très classique. Elle est donc dominée par des grands propriétaires terriens, liés beaucoup à l'industrie métallurgique locale. Donc on a à la fois chef de capitaine d'industrie et grand propriétaire terrien, avec un ensemble de fermiers et une petite frange de propriétaires exploitants. Et beaucoup de plus réactifs, de journaliers. Donc c'est pas ici que je vais développer plus que ça. Je pense que vous connaissez par cœur cette structure sociale classique. Et là, il y a une crise à la fois agricole avec la baisse des cours du blé, une crise industrielle avec l'introduction de la coke, qui fait que l'exploitation des minerais dans le Châtillonnais devient peu rentable. Et donc du coup, vente de ces grandes fermes, et donc structuration d'un groupe social d'exploitation propriétaire qui achète ces terres qui ne valent pas grand-chose, parce que c'est essentiellement, il y a un peu de blé, mais c'est beaucoup aussi des terres pour moutons. Et donc il y a beaucoup de migrants, d'exploitants qui arrivent, donc soit de l'est de la France, Alsace. Alors moi, j'ai un exemple. En Alsace, quelqu'un en 1932 vend 80 000 euros son exploitation de 7 hectares et son cheptel, et pour la moitié, 40 000 euros, il s'achète une ferme de 40 hectares dans le Châtillonnais. Et donc, il multiplie par 7 fois, je sais pas, par 6 ou 7 sa surface agricole pour se déplacer. Et donc, on retrouve aujourd'hui, dans tous les noms de famille des agriculteurs, donc beaucoup de Luxembourgeois, Suisses, Alsaciens et Lorrains et Belges. Et donc, ce sont, avec en plus les mariages. Je n'ai pas fait un chiffrage exact, mais bon, on voit très très bien une très forte visibilité d'une migration pour les exploitants propriétaires. Donc là, avec les Suisses, il y a aussi... je vais rapide parce que c'est une histoire, je pense, qui est assez connue autour de la modernisation fertilisation, modernisation. Donc ces terres qui étaient bonnes que pour des moutons deviennent bonnes pour des grandes cultures. Et en plus, avec la rotation du colza, plus après la PAC, réforme 92, donc l'ensemble de la modernisation agricole a été particulièrement bénéfique. Et donc il y a un effet loop, on va dire, sur mon territoire, ce groupe, historiquement, c'est pas une terre à céréales. Donc ce groupe a pu se constituer comme un groupe de céréaliers. Et donc ils ont tiré tous les bénéfices de terres qui étaient peu productives à des terres devenues productives. Ces exploitants propriétaires ont d'abord acheté la terre aux grands propriétaires, aux notables, aux capitaines d'industrie de l'époque. Et donc là, les châteaux se sont vidés de leurs terres d'une certaine manière. Il reste les châteaux, mais la terre est partie. Et donc aujourd'hui, la terre appartient à des exploitants agricoles qui l'exploitent eux-mêmes. Et donc ce modèle, aujourd'hui, on arrive à des exploitations dont la taille moyenne est à 200 hectares. La valeur moyenne de l'hectare est autour de 3000 euros l'hectare. Donc on a des exploitations dont le foncier qui est exploité soit en location, soit en propriété, ça fait des fermes dont l'immobilisation foncière tourne autour de 500 à 600 000 hectares. Je vous donne des chiffres moyens. Hein, et donc le capital d'exploitation en général est évalué autour de 250 000, 300 000 euros pour ceux qui rachètent les exploitations. Donc ça donne des immobilisations, pour donner une fourchette de grandeur, autour d'un million pour les exploitations moyennes du coin, quoi. Si on essaye donc d'avoir des statistiques plus localisées pour avoir les revenus, donc je vous ai dit qu'on avait extrêmement mal à avoir un chiffrage localisé des revenus et du patrimoine, mais on peut avoir des stratégies de terrain. Et du coup, quand on demande aux spécialistes des marchés agricoles, au Crédit Agricole, on va avoir ce tableau-là déjà sur la catégorisation marketing de la clientèle châtillonnaise au Crédit Agricole. Vous remarquerez que tous les 68% des agriculteurs sont en haut de gamme. 47% des artisans commerçants, parce que toutes les grandes entreprises sont en dehors de ces fichiers, et les particuliers, c'est 8%. Donc, du point de vue, alors bien sûr, le Crédit Agricole attrape majoritairement des agriculteurs, mais du point de vue du Crédit Agricole, à l'évidence, les agriculteurs sont leur clientèle noble. Et quand on leur demande en moyenne combien la fourchette des revenus pour eux des agriculteurs, des ménages agricoles, pour eux, dans la zone, c'est entre 45 000 et 110 000 euros. Et pour un ménage. Et quand on ramène ça au à la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, là, des revenus... Ah oui, elle est là. Hop. Les revenus agricoles du Châtillonnais sont 2,5 fois supérieurs à la moyenne des revenus agricoles en France. Et donc, globalement, avec l'ensemble de ces données lacunaires, partielles, difficiles à objectiver, on a quand même une idée qui nous amène à placer globalement le revenu de nos agriculteurs châtillonnais en moyenne au niveau de celui des cadres en France. Si on essaye maintenant de s'intéresser à leur patrimoine, donc on voit que, effectivement, le fait d'avoir une valorisation par la fertilisation, la mécanisation qui a rendu des terres hier impropres aux grandes cultures, devenues propres aux grandes cultures, a fait exploser la valeur des terres dans le Châtillonnais. Donc acheter dans le Châtillonnais a été particulièrement profitable. Et donc si on prend la structure patrimoniale classique des agriculteurs du Châtillonnais, il y a donc bien sûr d'abord leur patrimoine professionnel qui est le moyen le plus important de construction de leur patrimoine avec l'achat des terres. Mais aujourd'hui, l'achat des terres est de plus en plus difficile, l'accès aux terres est assez difficile. Et donc leur excès d'épargne se déplace de plus en plus vers le patrimoine immobilier. J'avais un enquêté qui me disait, donc dans la diversification des patrimoniales, c'est d'abord vers le patrimoine immobilier qu'elle se place. Et donc, faut acheter la terre, quand on peut pas acheter la terre, on achète un appart. Et donc, on a deux stratégies de diversification dans l'immobilier. Il y en a, et qui, moi, de mon point de vue, sont très intéressantes à étudier. C'est ce qu'on pourrait appeler le marché localisé de l'immobilier, où là, on va retaper les dépendances d'une exploitation qui ne sont plus, dont les bâtiments agricoles sont plus adaptés, où on a racheté une ferme, donc on a le bâti avec, et donc on va la ferme en question, le bâti résidentiel, on va la transformer soit pour en faire un gîte, soit pour la revendre à des résidences secondaires. Donc plus on a de capitaux culturels capable de discerner ce qui va être distinctif sur le marché de la résidence secondaire, plus on va avoir la capacité à le faire. Donc là, dans ce marché-là de l'autoconstruction, ce qui est intéressant pour constituer un patrimoine personnel, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se fondent beaucoup sur une économie autochtone du bâtiment, où c'est de la débrouille, c'est avec son Manitou, avec sa remorque, avec son matériel. Il y en a qui se constituent de véritables ateliers et donc qui intègrent tout ça, puisqu'ils sont, ils ont autoconstruit leur bâtiment agricole en grande partie. Donc ils ont un savoir-faire quasi professionnel du bâtiment. Je pense que là, on est loin, très loin du bon bricoleur qui autoconstruit dans sa maison au maximum. On est dans des gens qui se quasi professionnalisent dans ce secteur-là, et qui en plus connaissent le maçon du coin ou je sais pas quoi, avec qui ils ont une relation d'échange. Donc le maçon vient, il lui prête la main quand il y a les travaux, et donc il y a un ensemble d'économies comme ça qui sont constituées. Et donc là, il y a une très très forte compétence sur ce marché localisé du bâti pour en tirer des profits patrimoniaux. Et par contre, ce qui m'a vraiment frappé, c'est l'autre marché, celui de, on va acheter un appart, justement, où ils achètent beaucoup d'appartements à Dijon, notamment pour des étudiants, dans du neuf. Là, ils s'en remettent complètement à la chaîne du Crédit Agricole, qui a de Square Habitat, un réseau d'agences immobilières jusqu'à Pacifica, l'ensemble des assurances pour assurer son loyer et trouver quelqu'un, enfin assurer son bâti. Là, ils s'en remettent complètement. Moi, j'ai des scènes incroyables où l'agriculteur, il ne sait pas s'il doit acheter, il va absolument y aller avec l'employé du Crédit Agricole qu'il connaît bien, qui va lui prendre la main, qui va lui dire si, ça faut que tu l'achètes. Et donc, il y a une forme de remise de soi pour ceux qui sont les moins dotés, alors qu'ils sont assez compétents en termes bancaires. Quand vous voyez des agriculteurs rentrer dans une agence de crédit agricole, c'est pas comme nous, on reste au guichet un peu intimidé, on se demande à quelle sauce on va se faire croquer. Ils passent dans tous les bureaux, ils claquent la main à tout le monde, c'est un tutoiement généralisé. Donc cette forme de compétence bancaire qu'ils doivent avoir pour gérer leurs histoires et leurs comptes, et puis la familiarité avec cette banque qu'ils considèrent être leur banque, et donc une sorte de remise de soi pour l'achat d'appartements où il y a des formes aussi, j'ai plusieurs agriculteurs qui ont une dizaine d'appartements à Dijon, où là c'est carrément des personnes qui ont acquis une véritable pratique immobilière dans leur carrière de diversification patrimoniale. Donc bien sûr, l'appartement dijonnais, il est prisé. Enfin, l'appartement dijonnais, c'est beaucoup Dijon et un peu Châtillon-sur-Seine, un peu à Auxerre. Il a été longtemps prisé aussi parce que ça arrangeait beaucoup le Crédit Agricole avec les logiques de défiscalisation et de faire fonctionner ces filières Habitat quand ils ont acheté les réseaux, enfin quand ils ont constitué les réseaux de Square Habitat. Donc je joue pas ces logiques aussi, les lois Périssol, Besson, Robien. Donc il y avait un ensemble de défiscalisation potentielle qui a permis de drainer un flux d'épargne vers l'immobilier. Un point qui me paraît très très important aussi à comprendre dans la construction du patrimoine de ces agriculteurs, c'est qu'il y a très peu de résidences secondaires. Et donc là, on est dans une logique de différence par rapport au cadre. Et il me semble qu'on peut l'analyser sous deux angles. C'est le... À la fois, bien sûr, ils travaillent beaucoup l'été. Ils ont donc des contraintes différentes puisqu'ils sont pas calés sur le rythme salarial, donc ils ont pas non plus un rapport hédoniste de la même manière que les cadres qui vont rapidement quand ils vont dégager de l'épargne peut-être s'orienter vers des résidences secondaires, mais c'est aussi le patrimoine doit être quelque chose de productif. Le logement de l'étudiant à Dijon, il va servir à la trajectoire d'ascension sociale des apparentés. La fille qui va vouloir faire des études à Dijon bénéficiera de l'appartement quand elle sera en âge, le cousin. Et donc le patrimoine, ne peut être simplement un patrimoine de plaisir, mais un patrimoine qui est un investissement financier ou un investissement social qui va permettre, ou alors si j'ai aussi beaucoup le cas de quand je serai vieux... je suis loin des services de santé et comme ça, cet appartement dijonnais me donnera l'occasion d'être proche des services de santé. J'ai un exemple, moi, que je trouve qui donne très très bien la mesure de ce que représente le bâti comme quelque chose qui doit durer comme un patrimoine d'investissement et pas un patrimoine de plaisir. C'est des gens qui sont construits un pavillon, mais qui n'y vivent que dans l'entresol. C'est-à-dire qu'il ne faut pas abîmer le salon. Il ne faut pas user, il ne faut pas précipiter une usure trop rapide. Et donc, il ne faut pas consommer l'investissement. Il faut le faire durer. Il faut que ça dure le plus possible. Alors que beaucoup de catégories sociales, je pense, envahiraient leur salon. Là, non, le salon doit être tenu à distance et on va vivre jusqu'à dans l'entresol, à se faire une seconde cuisine pour maintenir l'effort qui peut paraître économiquement complètement déraisonnable d'acheter quelque chose qu'on n'utilise pas, mais qui montre, je pense, cette résistance à considérer l'investissement ou l'immobilier comme une consommation. Juste pour revenir rapide sur l'histoire des revenus, quand je vous ai dit que donc en moyenne ils avaient un revenu de 40 à 110 000 euros, enfin une fourchette entre 40 et 110 000 euros d'après les banquiers du Crédit Agricole local, pour vous donner une idée, la moyenne de revenus dans le Châtillonnais est à 17 000 euros. Donc les plus bas des agriculteurs auraient des revenus deux fois supérieurs à la moyenne de la zone dans laquelle ils vivent. Et ça donne aussi, pour vous dire, les zones rurales dans l'espace national en termes de revenus. Si on prend la Seine-Saint-Denis, qui est classé comme perçu comme le département qui concentrerait la pauvreté et les problèmes sociaux, a en moyenne un revenu à 19 000 euros, alors que le Châtillonnais a 17 900 euros. Donc c'est pour dire l'invisibilité, d'une certaine manière, des difficultés de la pauvreté économique de certaines zones rurales, et que donc ces agriculteurs, ces ralliés, ont comme voisins des classes populaires en très grande majorité. Et donc ils sont, d'une certaine manière, surclassés socialement. Par rapport, c'est un peu comme s'ils étaient des cas de sup en Seine-Saint-Denis. Pour avoir une idée de la représentation de comment, avec qui ils interagissent au quotidien. Donc, si on rajoute au-delà de ces variables, j'ai donné des variables de revenus, des variables de patrimoine, qui sont des variables du capital économique. Alors si sur le patrimoine, j'ai pas développé les histoires du patrimoine financier, alors ils ont longtemps eu une sorte de réticence au patrimoine financier. Alors là, il y a le Crédit Agricole et moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est dans la crise récente depuis 2008, si vous regardez quel est le groupe social qui a continué à acheter des actifs financiers, c'est les agriculteurs, alors que tous les autres ont baissé. Et donc derrière, moi, l'une des grandes hypothèses, c'est la main des banquiers. Quand vous allez au Crédit Agricole aujourd'hui, pour gagner des parts de marché, c'est pas en allant conquérir d'une nouvelle clientèle, puisque la France est 100% bancarisée. Donc là où la conquête se fait aujourd'hui dans un espace saturé comme un marché saturé comme la France, c'est sur les hauts patrimoines, et toutes les banques développent des banques privées. Et donc là, dans le Châtillonnais, en Champagne-Bourgogne, parce que c'est la caisse régionale Champagne-Bourgogne, qui bénéficie majoritairement de cette banque privée, c'est plus de 60% les agriculteurs. Et donc c'est tout un processus donc la banque privée, je détaille pas, mais c'est des personnels mis à disposition pour accéder plus facilement à des produits financiers. Donc il y a tout un processus de financiarisation du portefeuille patrimonial des agriculteurs qui est produit sciemment par les banques qui ont besoin d'augmenter leurs réserves obligatoires pour développer leurs prêts avec les réglementations Bâle 3. Je ne développe pas plus là-dessus. Mais il y a donc de fait une réticence au patrimoine financier qui a longtemps été une caractéristique des agriculteurs, qui aujourd'hui est en train de tourner. De la même manière que le patrimoine immobilier s'est énormément développé, aujourd'hui c'est plutôt le patrimoine financier avec énormément de formation offerte. Alors il y a aussi le fait qu'ils ont été socialisés aux pratiques financières via leurs pratiques professionnelles, l'accès au matif, le placement de leurs céréales, qui fait qu'ils modifient d'une certaine manière de plus en plus leur ethos économique vers un ethos capitalistique qui leur permet donc du coup d'avoir de moindres réticences à diversifier leur patrimoine vers le patrimoine financier. Et donc, du coup, si on sort de cette simple analyse de la position sociale des agriculteurs à travers le capital économique, qu'on essaie de l'étendre à d'autres indicateurs, si on prend la place de la distinction sociale dans l'espace local et la production d'élites locales à travers l'analyse des postes électifs, des élus. Bon, là, c'est un secret pour personne ici. Il y a une très forte surreprésentation des agriculteurs dans les conseils municipaux et dans les... à l'échelle des maires. Et cette surreprésentation, alors bien sûr, vu la place en termes d'effectifs des agriculteurs dans les années 50-60, un conseil municipal était composé quasiment exclusivement d'agriculteurs dans la zone. Moi, j'avais les chiffres, mais en gros, on était à 70-80%. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins fort, parce qu'il y a un déclin du nombre d'agriculteurs. Mais on garde le même taux de surreprésentation. C'est-à-dire qu'il y a 2,5 fois plus d'agriculteurs dans les conseils municipaux que d'agriculteurs dans la population active. Et il y a une très forte surreprésentation des cadres également. Et par contre, c'est bien sûr les ouvriers, les employés qui sont les moins représentés. Et par contre, là où ça commence à bloquer pour les agriculteurs, c'est dans tout ce qui est la construction communautaire, les communautés de communes, ou là, dans la construction des grands élus, qui est une des nouvelles formes de construction de carrières politiques dans les zones rurales, avec la construction d'administration, les agriculteurs ont beaucoup de mal à tirer leur épingle du jeu par rapport au cadre. Donc bien souvent, le président de la communauté de communes d'une zone rurale va être un cadre et beaucoup moins un agriculteur. Alors que dans les conseils municipaux et les maires des petites communes, c'est là qu'on va retrouver massivement les agriculteurs. Donc du coup, les agriculteurs, donc, j'ai dit position économique, une position élective distinctive. Et si on essaie de s'intéresser maintenant à l'autre variable classique de la construction des positions sociales autour du capital culturel, si on s'intéresse par exemple au diplôme, alors là, j'ai les données sur le Châtillonnais de 68 à 99 dans ce tableau. Vous voyez qu'en 68, les agriculteurs ont un niveau de diplôme proche des ouvriers. Il y a autant d'agriculteurs sans diplôme que d'ouvriers. Si vous passez en 1999, on voit à quel point les agriculteurs ont largement rattrapé, dépassé même les employés, et ils sont au niveau des professions intermédiaires en termes de structuration du diplôme. Là, donc du coup, c'est vraiment la sociologie stratificationniste standard qui prend le diplôme comme un des indicateurs de capital culturel certifié. Et moi, je pense qu'il y a un gros souci à prendre que ce critère du diplôme pour les agriculteurs, parce que le diplôme pour les agriculteurs, c'est avant tout le sésame pour accéder à des dotations d'État, pour l'installation. Donc il faut avoir son BTA, aller avoir son bac pro agricole ou son BPA. Et donc du coup, il y a une sorte de raisonnement un peu tautologique, puisque bien sûr, comme ils doivent faire des études agricoles, ils ont un capital technique certifié. Donc du coup, il faut ruser pour essayer de saisir le capital culturel des agriculteurs. Donc on peut ruser en prenant la fratrie, leurs frères et sœurs. On peut ruser en prenant leur épouse ou leur conjoint masculin. Mais bon, c'est quand même globalement des agriculteurs masculins. Mais aussi aller voir vers du capital culturel non certifié. Donc les pratiques de loisirs. Sur mon terrain, un des agriculteurs a créé un golf. Donc dans le club de golf, il y a pas mal d'agriculteurs. J'ai découvert pas mal de pratiques de ski qui se développent. Il y a beaucoup de piscines sur mes exploitations. Et je trouve ça d'autant plus intéressant que la sociologie rurale, via Champagne, Patrick Champagne notamment, a très bien décrit la lourdeur du corps paysan, le paysan à la plage qui ne sait pas où se mettre, qui reste habillé, qui regarde les classes moyennes profiter des plaisirs hédonistes du corps. Alors que bon, là, 20, 30 ans plus tard par rapport à ces enquêtes, chez les céréaliers qui étaient pourtant perçus il y a 20, 30 ou 40 ans par les anthropologues de Surminot comme des paysans, ils adorent acheter une piscine et puis nager dedans. Donc la pratique du corps et l'aisance corporelle qui est ou le ski ou la distinction sociale, c'est pas si on a les skis bien parallèles et on a le corps bien souple pour tenir ça. Ce sont typiquement des sports qui mettent en évidence la maîtrise corporelle qu'un bon bourgeois doit avoir de soi pour être distingué dans la hiérarchie sociale. Et ben donc c'est typiquement sur ces objets-là, donc le golf, le ski, la piscine, qu'ont investi les agriculteurs. Alors, je vous dis pas qu'ils font pas aussi du motocross, mais c'est quand même pour moi des éléments de distinction sociale qui renvoient à des formes d'adoption des pratiques distinctives des catégories supérieures. Et un autre élément, moi, que j'ai voulu, étant, je trouvais, un peu désarmé avec cette structure du diplôme, pour essayer de rendre compte de cette forme d'embourgeoisement, c'est le bâti. Je me suis beaucoup, au départ, j'étais frappé par leur maison, que j'ai trouvé démesurément grande, et alors qu'au départ, je voulais pas m'y intéresser. Donc, moi, c'est des choses tout à fait classiques, et c'est pour ça que je pense qu'on peut parler d'embourgeoisement agricole, au sens où, quand on regarde le bâti, leur forme de mobilité sociale, elle est très respectueuse de l'ordre social dominant. Je veux dire ça au sens où c'est d'abord... on va pas développer un goût qui va être, comme dans la gentrification urbaine, qui va remettre en cause les formes canoniques de la culture bourgeoise, même si c'est des pratiques de la petite bourgeoisie culturelle en ascension, on va pas aimer le jazz ou des choses comme ça. On va être dans des formes très classiques, et on va même au départ commencer par une sorte de goût populaire en grand, très respectueuse de la hiérarchie sociale. On va y aller pas à pas. Et moi, je pense que cette idée qu'il n'y ait pas de renversement, qui pourrait être une autre forme de mobilité sociale, mais quelque chose de très respectueux de la hiérarchie sociale, et pour moi, ce qu'on pourrait appeler des formes d'embourgeoisement, où on connaît sa place, on y va pas à pas, et on respecte l'ordre social. Et alors, si on prend le bâti, donc là, c'est quelque chose d'assez connu sur la séparation des espaces domestiques et des espaces professionnels. Donc, je vous ai mis quelques images où là, je trouve que c'est très, très clair, où on a une forme d'architecture industrielle des bâtiments agricoles, qui a bien été décrit par Philippe, notamment. Et donc, du coup, versus un espace domestique. Et donc là, quand on reprend une photo, alors moi, je trouve ça intéressant parce que là, on voit l'univers pavillonnaire. Là, il s'est fait une petite pof. Et puis, il y a le jardin pavillonnaire qui semble posé là au milieu des champs. Et là, on a donc les bâtiments industriels. Et donc ça, c'est la structure classique. On a un grand pavillon. Là, on va la retrouver. Bah, là, est-ce qu'on voit les piscines? Ah, oui, tiens. Là, il y a une piscine, là. Là, il y a une autre piscine, là. Et donc là, on fait donc le pavillon, l'univers pavillonnaire, bien séparé. Alors, c'est assez intéressant parce que dans ces pavillons, il y a deux entrées. Il y en a un qui parle de l'entrée des artistes. Donc l'entrée des artistes, c'est le garage où on pose ses bottes. Donc c'est l'entrée de l'agriculteur. Et moi, quand je suis reçu, j'arrive toujours avec mon déguisement d'urbain. Et donc du coup, je suis invité. Et donc je dois attendre qu'il passe par la porte des artistes. Et je suis par la porte classique de l'entrée bourgeoise. Et donc après, je suis accueilli au salon pour faire l'entretien. Et donc cette idée de double porte me semble assez intéressante parce qu'il ne faut pas que la saleté rentre dans l'espace domestique. Les formes pavillonnaires qui sont mises en place, moi, elles me semblent très intéressantes. Il y a d'abord un temps de... Alors, ça va être... je vais vous montrer ça vite fait. D'empavillonnement. C'est-à-dire que dans les années 60, soit on peut se faire un pavillon, soit on peut pas, on empavillonne sa ferme. Et donc, on va faire du crépi, on va mettre les murs droits, on va cacher les poutres, on va mettre du carrelage de la pierre, on va faire apparition de salle de bain. Les chambres sont apparues un peu plus tôt, les chambres individuelles. Mais on empavillonne sa ferme ou on s'achète un pavillon. Et donc, les pavillons, ils sont au perché, comme s'ils niaient la terre. Je trouve ça assez intéressant, parce qu'il y a le garage, puis il y a le balcon. Il y a souvent un escalier pour monter au balcon. Et donc, il y en a plusieurs des comme ça. Et voilà, j'ai plusieurs formes. Et alors là, je vous passe les ateliers d'autoconstruction qui se sont faits. Et ça, c'est les pavillons les plus contemporains. Et donc, moi, ce qui m'intéresse dans ces pavillons-là, c'est qu'ils sont en grand. Ils sont en grand, et donc 200, 400 mètres carrés, et avec des formes d'ennoblissement, celui du bas, il est appelé le château par les gens du coin pour se moquer de l'agriculteur. Et donc, il y a toujours une tourelle en plus. Il y a un renfort de rustique c'est le plafond de la Française, pierre de Bourgogne ou simili pierre de Bourgogne si on peut. C'est des maisons de maçons au double sens, c'est-à-dire maçons par le procédé de fabrication, autoconstruction, beaucoup par eux-mêmes, avec le copain maçon ou tout ce qu'on veut. Et c'est des maisons de maçons aussi avec le goût brut. C'est une vraie maison de père de famille. L'univers de la maison individuelle du propriétaire est poussé jusqu'en grand. Cette maison, elle est impressionnante parce que même le carrelage du garage, c'est de la pierre de Bourgogne. Et là, donc, je vous montre son intérieur. Qui est une forme de mise en château du pavillon. C'est à la fois un pavillon et un château parce qu'on a le lustre et l'escalier. On a les glaneuses de Jean-François Millet. Je trouve ça super, moi, le paysan qui regarde les glaneuses. Pour le coup, c'est les paysans d'avant. Et lui, il en est sorti. Et puis, il a regardé avec sa distance dans son salon en cuir. Là où c'est intéressant de leur mobilité sociale, c'est que certains, comme les châteaux, valent rien puisque les terres ont été vendues avec, ont pu accéder au château. Ils ont tenu 10 ans, mais c'était trop haut. Ils n'ont pas la distinction sociale pour faire le déjeuner sur l'herbe avec la jaguar qui crépite sur le gravillon. Et donc, du coup, avoir le savoir-faire gastronomique pour inviter tout son réseau social. Et donc, ils s'y sont sentis comme des étrangers constants à leur château qu'ils ont revendu aujourd'hui à une bourgeoisie anglaise, japonaise, belges ou françaises, parisiennes, des antiquaires, bon, où ça a été transformé en gîte de luxe. Et donc, du coup, ils ont compris où certaines familles sont encore là comme résidence secondaire. Donc, le château est un impossible social dans leur mobilité sociale, une forme de, donc, une distance à la grande bourgeoisie, une sorte de plafond. Par contre, une distinction par des goûts populaires en grand de gros pavillons dont on renforce la structure, on va dire, archi-classique de l'architecture. Et qui donc, moi j'ai trouvé ça très intéressant parce que les classes populaires locales trouvent que c'est des magnifiques maisons, trop grandes, certes, alors que les classes cultivées, comme c'est une enquête collective, il y a plusieurs chercheurs... les gens trouvent que c'est d'un mauvais goût total. Donc c'est distinctif pour les classes populaires. C'est ridicule pour les catégories bourgeoises culturelles qui voient une appropriation mal dégrossie de la distinction sociale, alors qu'eux rêvent d'autres maisons, la belle maison de campagne avec les volets bleus d'autres formes de distinction sociale à la campagne. Et donc... J'en ai quelques... Alors ça, c'est les châteaux, volets fermés. Ouais. Et donc, moi, ce que je trouve intéressant, et donc je finis juste là-dessus, c'est qu'il y a deux temps dans la rénovation, donc et qu'on peut repérer facilement la couleur des volets, en général. Et donc, d'un côté, on a le vernis, donc le brut, le bois en lui-même, comme une matière noble. Et de l'autre côté, qui serait censé être respectueux, authentique, mais j'avais un agriculteur, il était dégoûté parce qu'il a refait faire son mur, et l'artisan, la couleur du joint de la pierre n'était pas exactement la même que celle historiquement originaire, donc ça se voyait que c'était une rénovation. Faut pas que ça se voit que c'est une rénovation. Alors que les maisons avec les couleurs peintes en bleu, en vert, des volets avec des couleurs terreuses, au contraire, c'est un imaginaire de la Provence, de la Bretagne ou de je ne sais pas trop quoi, mais au contraire, on affiche que c'est et c'est presque une gentrification rurale alloctone par ces agriculteurs. Et donc je vous le mets en mille. La plupart donc font des grands pavillons. Ceux qui font des rénovations rustiques, on va dire, et ceux qui font des rénovations qui plaisent à la bourgeoisie cultivée urbaine, le gradient, ça va être le capital culturel qu'on peut vraiment mesurer par les épouses. Et par exemple, celle-ci, l'épouse, elle a fait les beaux-arts. Et c'est rare, un agriculteur marié avec une fille qui a fait les beaux-arts. Mais voilà le résultat. Donc ils ont une sorte d'homogénéité dans le capital économique parce que c'est des céréaliers, on ne peut pas avoir moins de 100 hectares, on ne peut pas en avoir plus de 300, à part en fait des GAEC. Et donc les revenus, il y a des écarts, mais ce n'est pas énorme entre eux. Par contre, les distinctions se font sur le capital culturel. Et qu'on peut mesurer, objectiver par le bâti, et après essayer d'objectiver par les positions sociales de leurs alliés et de leur trajectoire. Voilà, je m'arrête là.